Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre épisode de Jason Ballon Rond. Encore une fois, beaucoup de choses qui sont passées dans le monde du ballon rond, justement. Et pour en parler, eh bien, ce sera moi-même, Olivier Prince-Groulot, à l'animation, et je serai accompagné de Doual Ibrahim et de Thomas Lafond. Comme d'habitude, quoi, les gars, comment ça va?
Ça va très bien.
Très bien, toi.
Ouais, ça va bien. Écoute, oui, très bien, très bien.
Sûr.
Non, ça va très bien, honnêtement. J'ai eu une très bonne nouvelle hier, vous savez de quoi je parle.
Donc, oh, ouais, bien sûr.
Exact. Donc, oui, ça va bien. Ça va peut-être moins bien pour d'autres, par contre, dans le monde soccer, on pense au CF Montréal. Mais on va parler du CF Montréal à la fin de l'épisode cette fois-ci, pour essayer de tourner la chance, peut-être, on va voir. CF Montréal, donc, qui joue leur premier match demain au Stade Saputo à domicile, mais on va y revenir. Stade Olympique, excusez, tu as bien raison, Stade Olympique. Et j'y serai, mais y serez-vous?
Oui,
oui,
y serez également.
Oui, yes. On va tous être là.
Parfait, ça, parfait. Donc, commençons par la Ligue des Champions, messieurs. Ligue des Champions, le tirage est sorti ce matin, mais avant de parler du tirage des demi-finales, des quarts, on va parler des huitièmes qui sont terminés cette semaine. Bon, je pense que par où vous voulez commencer? Est-ce qu'on commence par Real Liverpool? Je pense d'où tu me parlais de Real Liverpool. Tu avais des choses à dire là-dessus?
Oui, écoute, on peut en parler.
Allons-y.
On va commencer par cette confrontation-là, mais il y en a eu d'autres quand même.
Oui, il y en a eu d'autres.
Ici, là. Ouais. Mais on va commencer avec celle entre le Real et Liverpool. Bon, le Real avait quand même une avance assez confortable au match retour. Alors qu'ils menaient par 3 buts grâce à leur victoire à Anfield par 5-2 il y a 2 semaines, je ne me trompe pas, déjà 2-3 semaines? C'était 3 semaines, je ne me trompe pas?
Ouais, ça fait deux semaines.
Ouais, c'est ça. Puis, parce que d'habitude l'écart entre le match aller et le match retour lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est comme 3 semaines et un mois. Fait, c'est pour ça que je me posais la question. Mais ouais, bref, Liverpool se ramassait avec quand même une lourde tâche d'aller marquer 3 buts au Santiago Bernabéu de Madrid. Puis ça, c'est quand même une mission qui est très ardue pour n'importe quelle équipe européenne, puis surtout en Ligue des Champions, qui est quand même la compétition du Real Madrid. Puis écoute, le Real Madrid l'a remporté 1-0 grâce à un but de Benzema, qui s'est blessé sur la séquence en plus. C'est ça qui est assez spécial. Mais ouais. Faut le mentionner, là, Liverpool est arrivé là comme s'il menait par 3 buts au lieu du contraire. Puis ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé assez problématique. Peu menaçant, un milieu de terrain qui était juste invisible. Pas compliqué, là, genre le milieu de terrain de Liverpool, non seulement décimé par les blessures, mais en plus, aucune créativité.
Il était complètement avalé par le milieu de terrain du Real qui est trop fort, là.
Ouais, mais ouais, même là, puis c'est juste que d'habitude, même si le milieu de terrain du Real, on sait que c'est un milieu de terrain qui est un des meilleurs depuis de nombreuses années, ben normalement, Liverpool y arrive avec le sentiment d'urgence. Donc, normalement, Liverpool doit être beaucoup plus agressif contre un milieu de terrain, surtout quand tu affrontes celui du Real Madrid, puis malheureusement, je n'ai pas senti ça. Puis même au niveau offensif, Thomas, je vais juste finir là-dessus. Juste l'impression qu'il y avait Darwin Nunez qui était vraiment menaçant du côté de Liverpool dans ce match-là. Mohamed Salah qui est passé à côté de sa rencontre. Alexander Arnold qui, on va en parler un peu plus tard, mais qui a eu un match absolument horrible. Créé offensivement puis défensivement, s'est fait manger par Vinicius. Bon, ça, on en parlera, là, mais ça, c'était horrible.
On est trop habitué à prononcer autrement, mais oui. Vinicius.
Ben, c'est ça. Mais mauvaise performance d'Alexander Arnold aussi. Donc, c'était un match à oublier pour Liverpool qui est une rencontre digne un peu de sa saison. Une saison un peu en dents de scie. Il y a 2 semaines, il avait battu Manchester United 7-0 à domicile pour après perdre un autre match comme Bournemouth.
Bournemouth, oui.
Puis par la suite, se retrouver à Bernabéu, puis perdre 1-0, puis pour finalement perdre 6-2 au cumulatif début pour cette 8e de finale. Puis écoute, techniquement, la logique a été respectée, mais c'est juste que contre-performance de Liverpool à Madrid, puis tu avais l'impression que finalement, c'était peut-être juste le Real qui avait un sentiment d'urgence alors que c'est eux qui menaient par 3 buts. C'est ça qui était assez particulier de cette rencontre-là.
Mais en même temps, je veux dire, c'est difficile comme milieu terrain d'avoir un sentiment d'urgence quand tu as James Milner qui joue à.
Ouais.
Il rend ça à quel âge, je pense?
Presque 37 ans, ouais.
C'est ça.
37-38 ans?
Oui, c'est ça. Le milieu de terrain, d'un, il y a des blessures, puis de deux, c'était la faiblesse de Liverpool. Au début de la saison, on a cru que qu'Arthur viendrait sauver les meubles, mais...
Arthur, pas de signe de lui, hein.
Non, ouais. C'est ça, ça a été un fiasco, puis tu regardes en fait le milieu de terrain, tu sais, Cole Gapco également, qui...
Ouais, il était très peu visible.
Qui connaît un arrivé à Liverpool assez décevant, donc...
Mais il jouait mieux!
Il commence à...
Après l'adaptation, elle était finie, on
s'entend, mais... Il commence à jouer mieux, là. Mm-hmm. Mais c'est, il y a vraiment un gap, une marche entre le milieu du Real et le milieu de Liverpool. Je pense que c'est ça qui a fait la différence entre les deux équipes.
Ouais.
Ben ouais, moi je suis assez d'accord. Je pense que c'est vraiment ça. C'est le milieu de terrain. T'as un Modric, un Kroos, c'était Camavinga qui était titulaire, mais c'était mercredi.
Ouais.
T'avais même un Valverde qui jouait supposément à l'aile, mais qui redescendait beaucoup. Ça faisait que c'était même des fois, t'avais un Benzema qui décrochait. Ça faisait que t'avais une omniprésence madrilène au milieu de terrain. Puis c'était tout simplement impossible à combattre pour Liverpool. Salah, Gakpo, on les a pas beaucoup vus, mais c'est parce qu'on était tout simplement pas capable de les nourrir assez. Ceci dit, Liverpool s'est procuré des chances quand même intéressantes. Je pense à Nunez, là, que Courtois a sauvé un but là, avec son plongeon. Là, il a touché de la main. C'était un très beau tir enroulé de Nunez. Il y a Gakpo qui a eu une chance à mener, je pense, c'est sur une construction. Là, une des rares constructions de Liverpool qui a mené à quelque chose. Mais à part ces deux occasions-là, il n'y a pas eu grand-chose. Puis, tu sais, je pense pas que... Oui, Liverpool a manqué d'agressivité, peut-être, mais c'est parce qu'on s'est fait complètement manger au milieu de terrain. Ce qui est à prévoir, là, on joue avec Fabinho Milner. On a deux milieux de terrain, premièrement, contre trois du côté de Madrid, avec un Valverde qui redescend souvent. Ouais. Et on a... C'est les deux milieux qu'on a, c'est Fabinho Milner. C'est vraiment pas les meilleurs pour la relance ou pour... générer de l'attaque. Donc, tant qu'à moi, c'était presque voué à l'échec. Il aurait fallu un miracle là, pour ça. Puis avec un milieu aussi décimé, qu'on n'a pas fait d'achat cette saison au mercato d'hiver, c'était quasiment inévitable, là, cette défaite-là. Là.
Ouais, puis aussi, même je crois que avec peut-être... peut-être un retour au jeu, mettons on va faire... OK.
Retour au jeu de Thiago, mettons.
Ouais, mettons, si on prend l'exemple d'un retour au jeu de Thiago Alcantara ou même de Jordan Henderson, je pense même que le milieu de terrain de Liverpool n'aura pas été capable de contrer celui du Real Madrid, même avec ces deux-là, parce qu'il manque un créateur de jeu. Thiago Alcantara...
On gagne 2-0, je pense pas, non. Ouais. On aurait plus pas mal plus de chance, ceci dit. Là.
C'est plus le même depuis... j'ai l'impression depuis son départ du Bayern en direction de Liverpool... Thiago Alcantara a perdu beaucoup de son jeu, surtout à cause des blessures. John Anderson commence un peu à vieillir. Bon, Milner a quand même 37 ans, là, fait que c'est assez
Milner
difficile de jouer à ce niveau-là. À part si tu appelles Luka Modric, d'habitude, à 37 ans, t'es à la retraite quand t'es un milieu de terrain. Là. Puis, ouais. Puis Fabinho,
c'est fou.
Fabinho qui a joué un match... ordinaire, disons-le, là, c'était pas son meilleur match, mais juste que
il fait face à Modric et Kroos, c'est difficile de sortir, genre, d'avoir une grosse performance quand t'es deux au milieu de terrain puis tu joues contre ce milieu de terrain-là.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis, quoi dire encore, à part que le Real Madrid, malgré que ça va pas tant bien que ça pour le Real en Liga, trouve toujours un moyen de s'en sortir en Ligue des Champions, c'est assez phénoménal d'avoir cette équipe-là. C'est une équipe qui a un bon noyau. Puis, encore une fois, on ne sait jamais, là, cette équipe-là, malgré qu'il y ait eu un tirage au sort peut-être difficile, là, disons-le. Là. Bon, c'était pas le pire adversaire pour le Real, mais ça va quand même être plus compliqué qu'on le pense. Ben, peut encore se rendre jusqu'au bout, là, le Real Madrid, là, avec l'équipe qu'ils ont. En plus, cette année, ils ont rajouté Anthony Rudiger, que c'est là qu'on voit la différence avec une blessure, par exemple, à David Alaba ou à comment il s'appelle le Brésilien? Militao. Dans Militao. Par exemple, si un de ces deux joueurs se blesse en défense au Real, ben, t'as Rudiger, t'as Nacho aussi qui peut dépanner.
Nacho peut jouer n'importe où en défense.
C'est ça, Nacho Fernandez qui peut jouer un peu partout. Puis évidemment, ben, sur les ailes, t'as encore Fernand Mendy ou Adani Carvajal qui font encore du bon boulot là, du côté du Real Madrid. Mais mm-hmm. En tout cas, puis là, on va en parler, on n'a pas le choix, là, mais Alexander Arnold, gars, je suis...
Je suis complètement d'accord avec toi.
Défensivement, c'est horrible. Moi, je pense de plus en plus...
tellement de déchets aussi. Là.
Défensivement, je crois, puis je pense que c'est peut-être ça que Jurgen Klopp devrait faire. Peut-être qu'il devrait penser à ça. S'il voit qu'Alexander Arnold n'est pas capable de s'améliorer défensivement, peut-être qu'un changement de position pourrait apporter un plus grand bien à Alexander Arnold, puis peut-être de le faire jouer au milieu de terrain. Peut-être de faire jouer un peu comme on l'a vu au Bayern de Munich avec Joshua Kimmich qui maintenant joue au milieu au lieu de jouer à... Parce que Joshua Kimmich qui a commencé au Bayern de Munich, jouait à latéral droit, ouais. C'était supposé être le remplaçant. C'était supposé être le digne successeur de Philippe Lam. Puis ouais. au final, ben, il se retrouve au milieu de terrain.
Philippe Lam a déjà joué au milieu aussi, by the way.
C'est ça, Philippe Lam aussi.
Ben, Saka aussi.
Ouais, c'est vrai, Bakayu Saka, c'est vrai aussi.
Qui était latéral gauche à ses débuts. Puis...
L'affaire pour monter Trent Ellier, c'est que c'est la position de Salah, là, donc ça se fera pas. Là.
Mm-hmm. Mais au moins, c'est ça. Si tu es capable de le monter, peut-être que là, ça va changer la carrière d'Alexander Arnold, mais défensivement, il est comme. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'était un mismatch entre Vinicius puis Alexander Arnold un contre un, là, genre sur la même aile. Là, genre, c'est... Alexander Arnold pouvait absolument pas contrer Vinicius. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs sur la planète qui est capable de tenir à un contre un contre Vinicius. Donc, en plus, tu mets Alexander Arnold qui a des difficultés défensivement contre un dribbleur comme Vinicius, ben, c'est mission impossible. Donc, il va y avoir beaucoup de questionnements à avoir du côté d'Alexander Arnold. Puis même chose, on pourrait en parler aussi, mais même Virgil van Dijk aussi qui a connu un dernier mois assez difficile. Même lui aussi, quand il y a beaucoup de points d'interrogation en défense du côté de Liverpool, malgré que Konaté et Robertson font quand même le boulot. Ouais.
Robertson, Konaté, écoute, j'ai bien aimé leur match. Je pense que ça va bien de ce côté-là. Mais
ouais. Les deux autres, c'est vraiment pénible. Puis en plus, les deux, en fait, dû à leur positionnement, sont supposés de céder. Vinicius est supposé de compte de pas Vinicius, pardon, mais Alexander Arnold est supposé de venir en aide à Van Dijk, puis Van Dijk aussi, dans leur cadrage marquage. Donc, ouais. Ils sont supposés t'aider, mais si un n'est pas capable de cadrer ou l'autre n'est pas capable de marquer, ben, c'est mission impossible pour la défense de Liverpool qui se retrouve avec deux gars qui sont pris hors position à chaque fois contre, par exemple, à Vinicius ou à Karim Benzema qui pouvait presque faire qu'est-ce qu'il voulait. Puis même, il y a eu des moments où Toni Kroos a eu des occasions marquées, même Kamavinga aussi.
Kamavinga a tué une barre horizontale.
C'était une barre, mais une barre déviée par un arrêt d'Alisson Becker. Donc,
ouais, exact. Ouais.
Alisson Becker aussi a joué un bon match en général.
Alisson Becker, moi, je l'ai, depuis plusieurs années, c'est un des meilleurs gardiens de but pour moi. Puis encore une fois, garder Liverpool dans le match jusqu'à la 78e minute. Donc, ouais, Alisson joue un très bon match. Pour compléter ce que tu disais sur Trent, oui, défensivement, c'est horrible, ça on le dit depuis longtemps. Offensivement, énormément de déchets. Là, ses centres n'étaient pas au niveau dans le match contre le Real. Peut-être que Liverpool aurait été capable de pas nécessairement d'aller chercher un but, là, peut-être, oui, mais de au moins menacer plus si Alexander Arnold avait été plus précis. Donc, ouais, match complètement raté. Puis j'aime beaucoup l'idée que tu apportes de le bouger au milieu de terrain. Écoute, c'est quand même intéressant. Surtout que Liverpool a besoin de milieu. Donc, si au lieu d'en acheter, au lieu de on pourrait sauver de l'argent, ne pas en acheter un et monter Alexander Arnold au milieu, acheter un défenseur, acheter un défenseur latéral droit à la place. Là. Mm-hmm. Donc, c'est moins cher les latéraux droits que les milieux habituellement. Là. Donc, ça serait intéressant, honnêtement. Il faudrait le tester. Je ne suis pas convaincu que ça pourrait être une réussite, mais c'est une bonne idée. Sinon, il faut acheter au milieu. Puis, pour donner, ne serait-ce que pour donner de la compétition à Trent, il faut acheter à droite aussi. Ouais, il faut dépenser pas mal là, cet été du côté de Liverpool, selon
moi. Je pense que c'est Jimmy Carragher qui en parlait.
Ouais,
mais ça, Trent, ça fait quoi, 5-6 ans?
Ouais, depuis qu'il y a comme 17 ans qu'il joue là.
Ouais, tu sais, je veux dire.
Puis qu'il est avec Liverpool.
Il y a peut-être une certaine. Peut-être une certaine complaisance qui est là.
Ouais. Il n'y a jamais de compétition, exact.
Ouais, ça. Donc, je pense qu'il serait temps d'être challengé. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais j'ai une question pour vous autres, les gars.
Ouais.
Cette année, c'est une saison un peu en dents de scie pour Liverpool. Mm-hmm. On sait que Klopp a toujours de la misère à sa 7e année avec des clubs. Pensez-vous que c'est le temps de passer à autre chose?
Non.
Non,
absolument
non.
Pas. C'est absolument pas. Puis je trouve que ce serait catastrophique de la part de Liverpool de dire au revoir à Jürgen Klopp. Surtout après. Surtout si, par exemple, parce qu'il faut se rappeler, là, Liverpool, il y a 7 ans. Liverpool, non, mais quoi, il est arrivé quoi, en 2016, Jürgen Klopp,
je me trompe pas? 2015-16, je pense.
Ouais. 2015-16. Si tu regardes le club de Liverpool en 2015-2016, c'était pas un club de Ligue des Champions, c'était à peine un club d'Europa. Là. C'était un club qui allait nulle part. Puis,
qui venait de perdre Stevie G.
C'est ça. Non seulement il venait de perdre Stevie G, mais il venait de perdre beaucoup de morceaux d'année d'avant. Ouais. Raheem Sterling, qui était quand même un des gros noyaux du futur de Liverpool,
Suarez.
Était parti. Luis Suarez, qui venait d'avoir une saison extraordinaire, était parti. T'as Daniel Sturridge, qui était toujours blessé. Mm-hmm. Là, tu venais de perdre Stevie G. Puis, en plus, il n'y avait pas un gros budget, fait qu'il ne pouvait pas aller vraiment chercher des grands joueurs à ce moment-là. Puis, c'était assez difficile pour Real, puis pas pour Real, pardon, mais pour Liverpool. Puis Jürgen Klopp est arrivé, il a complètement transformé ce club-là en allant chercher des joueurs un peu méconnus au final.
Il a transformé en des pères, mon gars. Là. Sadio Mané, là. Wow.
Ouais, Mané, Robertson.
Robertson. Salah, écoute.
Salah était déjà. Bon, à
ouais.
Roma, mais
personne ne voyait comme étant un joueur qui était top 5 attaquant dans le monde, là, puis il l'a transformé en ça. Même chose pour Mané. Fait que c'est absolument fou ce qu'il fait. Là.
En fait, le trio de Liverpool, Mané, Firmino.
Mm-hmm. Ouais. Parce qu'il va quitter. Qu'il va quitter à la fin de la saison, ça va être
ici. Ouais, absolument.
Je pense que un des premiers achats de club, Firmino.
Ouais, en plus, c'est un des premiers achats.
Il est là depuis le début là, avec Jürgen Firmino. Là.
Okay. Puis, en plus, il y a des rumeurs qui s'en aillent en MLS.
Ouais, il y a des rumeurs aussi qui aillent en Arabie Saoudite, en Chine.
Ouais.
Ça peut être.
L'argent, mais écoute,
ouais, je pense que l'Europe, c'est probablement fini pour Bobby. Là.
Mais là, parlons de. Je vais te laisser faire ta suite, Ali. Mais il y a d'autres matchs aussi. Là,
ouais, c'est ça, il y a d'autres matchs. Écoute, on a du choix, les boys. Moi, je suggère qu'on aille du côté de City pour le prochain. Avec une certaine performance de 5 buts. D'un certain Norvégien, Erling Haaland, qui en marque 5 contre Leipzig, alors que le match aller avait fini 1-1. Mais là, Erling Haaland en marque 5, ça finit 7-0 pour City, 8-1 au cumulatif. Mais honnêtement, les gars, Haaland a joué un bon match, il était juste là. Il a profité de presque tout ce qu'il pouvait. Mais non seulement il aurait pu en marquer plus, comme il l'a dit lui-même en entrevue, il aurait pu en marquer 7, mais. C'était pas des buts phénoménaux non plus. Là. C'était juste des buts de striker qui est là, qui est au bon endroit au bon moment, puis qui finit. Puis Erling Haaland,
exactement ça. Là. En même temps, quand tu joues avec Kevin De Bruyne, c'est pas mal ta seule option. T'as pas à faire grand-chose.
Non, mais je parle, tu fais des... Souvent, il y a des buts que tu as un certain travail de finition à faire.
Ouais.
Dans ce match-là, dans ces 5 buts, il n'y a pas eu tant que ça.
Ouais.
Oui, il y avait de la finition peut-être un peu, mais c'était pas très compliqué. Là.
Ben moi, l'affaire qui me choque, c'est vraiment Leipzig qui est passé à côté de leur rencontre. Là. Genre, c'est fou quand même. Puis j'ai vraiment l'impression que qu'est-ce qui a vraiment cassé les rêves de Leipzig, c'est le fameux non-carton rouge que Ederson aurait dû avoir, puis que finalement l'arbitre n'a pas décidé de décerner. J'ai vraiment vu ça. Je l'avais envoyé dans une conversation privée là, la faute, la grosse faute d'Ederson qui est allé tacler un joueur à l'extérieur de la surface. Puis non seulement il est allé tacler, il a complètement raté son tacle, puis pas de carton. C'est comme. c'est assez unique comme situation. Oui, oui. Puis ouais. Au final, ben, j'ai l'impression que ça a cassé les reins. Puis après ça, City, tranquillement, a vraiment pris l'ascension. Puis Erling Haaland, qui est un buteur phénoménal. Puis en plus, quand tu joues avec des joueurs, avec des passeurs fantastiques comme De Bruyne, comme Phil Foden, ou même un joueur que j'aime beaucoup, moi, Ekay Gundogan, qui est un grand match, qui a marqué aussi dans cette rencontre-là.
Ouais.
C'est difficile pour Erling Haaland de ne pas marquer quand tu as des aussi belles passes que j'ai dit Phil Foden, mais il était même pas là. C'était Bernardo Silva ou même Grealish qui était titulaire à la surprise générale.
Mm-hmm.
Mais écoute, grosse performance de Manchester City, mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment Leipzig qui a passé juste à côté de.
En plus, Leipzig avait bien joué.
Dans le match aller, elle a très bien joué. Ouais. Ouais, mais là, écoute, des fois, c'est ça. Des fois, c'est un rouleau compresseur que tu peux juste pas arrêter quand c'est Manchester City. Là.
Mm-hmm. Ben, écoute, c'est bravo à City, hein, comme on dit. Hein. Ils vont se retrouver encore des finales. Mais écoute, c'est une question de temps avant que City perd. Hein, parce que City, c'est toujours comme ça. Ils se retrouvent. Je pense qu'ils vont se rendre jusqu'au bout avec les champions. Puis à chaque fois, ben, il y a un événement malheureux qui fait qu'ils se rendent pas jusqu'au bout. C'est ça qui
va être.
Ils ont pogné un adversaire intéressant, là, on va y revenir. Là, mais
ouais, les quarts de finale, ça va être bon.
C'est ça. Bon, on va enchaîner, les gars. Bon, moi, j'ai goût de parler de Naples et de l'Italie au prochain, là, maintenant. Je ne sais pas ce que vous en dites.
OK. On ira PSG après.
Ouais, on ira PSG après, parfait. Écoute, trois équipes italiennes en quart de finale. Je pense que ça fait extrêmement longtemps qu'on a vu ça. Là. J'ai pas les statistiques devant moi, là, mais AC Milan, Inter Milan et le Napoli sont tous en quart de finale, sont tous dans la même moitié de tableau en plus. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Les équipes italiennes ont souvent énormément de difficultés là, en Ligue des champions, mais là, selon moi, la Ligue, le chemin est tracé pour Naples pour se rendre en finale. On en parlera tantôt.
Ça fait 17 ans.
17 ans qu'il n'y avait pas eu trois équipes italiennes encore?
Oui.
Ben, tu vois, c'est ce que je pensais. Ça fait extrêmement longtemps. Mm-hmm. Puis, écoutez, bon, ça n'a pas été les matchs les plus intéressants. Là. Naples est passé au travers de Francfort complètement avec un 5-0 cumulatif. Mm-hmm. AC Milan Tottenham, ça a été 1-0 match aller pour l'AC Milan. Au retour, ça a été un match. Tottenham a eu un rouge. Je m'appelle vraiment pas tant de ce qui s'est passé dans ce match-là. Mais,
c'était ennuyant. Je te le dis, ça vaut pas la peine qu'on en parle. C'était pas très compliqué pour l'AC Milan. C'est Tottenham qui est Tottenham. Hein, qu'est-ce que vous voulez que
je dise? C'est juste pas eu d'occasion autant que ça des deux côtés dans le match retour, là, si je me souviens bien. Là.
Ouais, c'est ça. C'était pas extraordinaire. Là.
Puis même chose, Porto-Inter. Porto a eu un rouge. Ça finit 0-0, Inter Milan avec le but dans le match aller. Puis pas mal comme le même match que l'AC Milan, ça s'est fini là. Mais ça leur permet de mettre trois équipes italiennes encore. Quelque chose d'inusité, de très rare. Fait que bien de voir ça. Moi, je pense que l'Italie pourrait vraiment se démarquer là, dans la suite de cette Ligue des champions. Là, Tom, tu voulais parler de PSG-Bayern.
Oui.
Vas-y, mon gars.
Ben, PSG, qui encore une fois se fait sortir en huitième de finale. Je ne me trompe pas, c'est la cinquième fois en 17 ans que c'est le cas. Donc, encore une fois, est-ce que cette fois-ci, on peut parler d'un constat d'échec?
Ouais, à 1000%. Puis, ça, on parlait des problèmes de milieu de terrain Liverpool, mais le PSG, c'est la même chose. Marco Verratti a mal joué, puis ça a juste pris ça pour que le PSG perde. C'est pas compliqué. Le PSG, leur plus grande lacune depuis plusieurs années, voire même depuis. En tout cas, surtout depuis l'arrivée de Neymar et Mbappé, c'est milieu de terrain. T'as pas été capable de remplacer un Thiago Motta qui était très important au milieu de terrain, un Blaise Matuidi qui fonctionnait parfaitement à Marco Verratti. Puis, je m'excuse, mais même si t'as Mbappé, Messi puis Neymar en haut, puis que tu as donné un roman dans les buts, puis que tu te ramasses avec une défense avec Marquinhos, Sergio Ramos, équipe MB, puis que tu as quand même des morceaux très intéressants pour le Paris Saint-Germain, ben tu restes que tu as un milieu de terrain avec Marco Verratti, avec Carlos Soler, puis avec Fabien Ruiz. Genre, tu gagneras pas la Ligue des Champions avec un milieu de terrain, avec les trois noms que je viens de mentionner. Là, c'est impossible. Uh-huh. C'est vraiment un milieu de terrain du PSG qui a encore une fois
coulé. T'as pas mon ami Vitinha aussi?
Ah, Vitinha, on peut nommer aussi Danilo Pereira. Il y a plein de joueurs qui
pas des mauvais joueurs, mais ouais, apprend plus de qualité au milieu. Là.
C'est ça, mais pour un si tu veux compétitionner contre des grands clubs comme le Bayern, comme le Real, Manchester City aussi, tu peux pas compétitionner contre ces équipes-là. Puis malheureusement, ça a été le cas pour le PSG. Puis le PSG s'est juste fait battre par Munich parce que Munich était simplement la meilleure équipe pour ce match-là. Parce qu'au match aller, Bayern Munich, c'était pas que Bayern Munich avait été excellent, c'est le PSG qui avait juste passé à côté de son match. Puis...
Sauf quand Kylian était rentré.
C'est ça. Mais là, tu avais Kylian Mbappé qui était là au match retour, puis ça n'a pas changé grand-chose.
Ouais, exact. On l'a complètement muselé. Écoute, le PSG, t'as Messi, t'as Mbappé. Bon, Neymar était blessé, ouais, était blessé pour le match retour, là, mais ça reste quand même que t'as une attaque de fou. T'as une attaque parmi les meilleures au monde, puis t'es pas capable, en deux matchs, de marquer un seul but contre le Bayern. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Puis on s'attendait à ce que Mbappé là, soit la bougie d'allumage pour le match retour. On l'a vu, il est rentré dans le match aller, avait tout changé, que là, le PSG allait être capable de surmonter le Bayern avec Mbappé. Eh bien non, c'est juste pas arrivé, pas du tout. Le Bayern a été le Bayern aussi qui est capable d'être dominant et de rien laisser passer en Ligue des Champions, un peu comme le Real peut le faire. Ils l'ont fait comme contre le PSG, puis voilà, c'est le PSG encore une fois. Malédiction de la Ligue des Champions, ils ne se rendent, ne répondent pas aux attentes, tout simplement.
Ben en fait, ça va arriver un jour.
Moi, je pense que ça va arriver un jour, mais,
ouais, ben oui, ça va arriver un jour.
Mais c'est, ils ont besoin d'un grand entraîneur, c'est ça le problème. Parce que Galtier, on le savait dès le début de la saison que il n'est pas la réponse pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. En fait, c'est pas compliqué, ils ont besoin d'un Mourinho, ils ont besoin d'un grand entraîneur qui implante une culture gagnante, puis surtout qui dit aux joueurs que comme t'es pas plus grand que le club. Là. Parce que malheureusement, au Paris Saint-Germain, il y en a qui agissent qui sont vraiment dans cette mentalité-là. Puis on peut penser à Neymar. À Neymar qui, oui, malheureusement, a été blessé au match retour puis qui va rater le reste de la saison. Mais Neymar qui presque comme si c'était un joueur à temps partiel, là, comme c'est pas normal. Là, on dirait qu'il y a un manque de. Il y a un manque de professionnalisme énorme du côté du Paris Saint-Germain. Puis j'ai vraiment l'impression que ce manque de professionnalisme-là, c'est surtout créé dès la remontada, là, dès la première remontada de 2017. Mm-hmm. J'ai vraiment l'impression que c'est là que la déroute est arrivée au Paris Saint-Germain. Donc, peut-être l'arrivée d'un grand entraîneur, peut-être... c'est sûr que ça n'arrivera pas parce qu'Ancelotti est déjà entraîné le PSG, là, mais mettons à Ancelotti ou à Jürgen Klopp ou à Pep Guardiola ou à Mourinho même,
Zidane. Qui arrive du coup. Zidane?
Ouais, Zidane. Mais Zidane, je sais pas. Zidane, ça pourrait être une
bonne option. Mais c'est l'option la plus probable. Je vois pas un Pep, je vois pas un Jose, un Mourinho peut-être, là, mais j'ai la misère à avoir un grand entraîneur comme ceux que tu as nommé, décider d'aller au PSG puis en Ligue 1.
C'est ça. Mais t'es Zidane.
À part Zidane, peut-être problème. Zidane parce qu'il est français, mais sinon, je vois pas.
Mais en même temps, Zidane, c'est un Marseillais. Puis,
ouais, c'est vrai.
Voir un Marseillais aller du côté de Paris, ça passe pas bien. Mais en même temps, c'est ouais, Zidane. Fait qu'on sait jamais.
Zidane.
Mais c'est pas mal ça. Puis c'est comme je te dis, il y a un manque de professionnalisme flagrant du côté du Paris Saint-Germain. Puis c'est ça qui leur fait couler à chaque fois. Parce que tu peux avoir tout le talent du monde, mais s'il n'y a pas de sérieux, tu peux pas te rendre jusqu'au bout. C'est comme ça avec des champions. Surtout dans une compétition comme ça de la Ligue des Champions, tu n'as pas le droit aux erreurs.
Mais je pense que bizarrement aussi, la chimie est plus ou moins présente. En fait, elle est présente en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, la chimie en tétrico d'attaque n'est pas là.
Oui, mais c'est normal, la Ligue 1 aussi est moins forte que
ouais, les ouais, autres grandes ligues. La Ligue 1, c'est du calibre assez faible, mais quand même.
La Ligue 1, ceci dit, s'améliore grandement.
Effectivement.
Ouais, je suis d'accord.
Mais c'est ça, je veux dire, du côté du PSG, c'est bien beau avoir les meilleurs joueurs du monde, mais tu sais, la chimie, c'est quand même ce bout qui manque, que le PSG a pas.
Ouais.
Je suis Totalement d'accord. Bon, là, il nous reste Benfica Bruges et Chelsea Dortmund. On va passer rapidement sur Benfica Bruges pour finir avec Chelsea. Benfica, honnêtement, gagné 7-1. C'est ça, 7-1 au cumulatif, 7-2 au cumulatif contre Bruges. Complètement dominé, là. C'est aussi simple que ça.
Ouais.
Ouais, attends, j'ai le score devant moi. Ouais, c'est 7-1. Ouais. Donc, c'est ça. Honnêtement, je trouve que l'attaque de Benfica est assez sous-estimée là, avec les Gonçalo Ramos qui fait un bon travail, Rafa Silva, David Neres. Il y a des bons joueurs du côté de Benfica, puis on oublie assez. Bon, c'était le club Bruges, vous allez me dire, OK, mais quand même, Benfica a une puissance offensive que j'avais pas estimée. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur Benfica, les gars.
Non, mais à part que c'est une belle équipe. C'est vraiment une équipe qui a des morceaux assez intéressants, comme tu viens de mentionner. Puis on sait jamais, c'est une équipe qui peut-être peut surprendre, hein, parce qu'à chaque année, il y a toujours une équipe qui réussit à avoir un parcours historique. Puis peut-être que c'est Benfica. Que c'est,
Villarreal en passé, mais, par exemple.
Oui, voilà.
Donc, c'est ça. Donc, il nous reste que Chelsea, Dortmund, les gars. Moi, je voyais Dortmund passer au travers de Chelsea avec le match aller. Chelsea a été capable de sortir du grand soccer pour le match retour. Bravo à eux. Là, ils ont gagné 2-0 le match retour contre Dortmund. Ceci dit, Dortmund a bien bataillé quand même, a eu des occasions. Kepa a fait un bon travail côté de Chelsea dans les buts. Mais Chelsea est allé chercher ce qu'il fallait. Et je pense que c'est la première victoire en 2023, Chelsea, quelque chose comme ça.
Deuxième, je pense.
Deuxième, quelque chose comme ça.
C'est fou quand on y pense, mais bravo à eux. Ils ont fait le travail.
Ouais, c'est pas d'autre chose à rajouter par rapport à.
Ouais, ben
à
écoute.
Chelsea, à part que c'est une anomalie si on regarde l'année 2023. Là.
Ouais. Ben écoute, on en parlait, mais ça commence à ressembler beaucoup comme en 2021.
Des
victoires à l'arraché,
c'est exactement le point que je voulais mentionner. Si tu regardes les deux titres de Ligue des Champions de Chelsea, c'est deux années où que l'entraîneur, où que Chelsea a eu vraiment des faux départs, qui ont congédié leur entraîneur, puis qui, même avec l'entraîneur intérim, puis que ça va pas super bien dans le championnat, trouve des moyens de se rendre jusqu'au bout. En arrachant tout le temps des victoires un peu par-ci par-là. Ça a été le cas en 2012. Hein. 2012, hein, c'est une des victoires les plus improbables qu'on a vues en Ligue des Champions. Là. Chelsea, notamment là, pour ceux qui veulent aller voir, confrontation Chelsea-Barcelone 2012, là, genre Chelsea s'est fait manger par rapport à l'FC Barcelone, puis ont trouvé le moyen de battre l'FC Barcelone. Et même
c'est un karma de 2009, peut-être. Là.
Peut-être, si, mais même si tu regardes cette édition-là, Chelsea avait réussi à remporter la Ligue des Champions contre le Bayern à Munich.
Ouais.
C'est ça qui était assez incroyable, au tir au but en plus. Fait,
ouais. Avec cette tête de Didier Drogba en prolongation. Pas en prolongation, en temps additionnel. Bref, on s'en repérera tous.
Puis même 2021 aussi, c'était vraiment à l'arraché.
2021, c'était improbable. Jamais j'aurais pensé que Chelsea aurait gagné la Ligue des Champions.
Puis en 2021, ils avaient battu qui en demi-finale? Le Real Madrid.
Et le Real Madrid. City en finale. Et j'étais sûr et certain que City allait sortir vainqueur du match-là, mais Chelsea avait complètement éteint. C'était un match extrêmement plate, il faut se le dire. Là. Mais pour une finale, c'était tellement décevant. Mais Chelsea a fait ce que Chelsea est capable de faire avec un Thomas Tuchel. Réussir très bien dans son système défensif, aller chercher un but, et voilà.
Mais tu sais, cette saison, on en a parlé plus tôt, mais je pense pas vraiment que c'était un faux départ. Je pense que c'est plus Bordy qui a fait un move de panique à cause de la défaite. On se rappelle en ouverture face à Zagreb, je me trompe pas.
Ouais.
Donc ça, tu sais. Je pense que Chelsea serait meilleur présentement sous Thomas Tuchel que Graham Potter, sans manquer de respect à Potter. Il a fait un excellent job à Brighton, puis son successeur De Zerbi aussi l'a fait très bien, mais je pense que du côté de Potter, c'est un manque d'expérience un peu.
Puis c'est aussi que t'es garagé dans une équipe.
En
début de saison, alors que là, il faut des résultats là, et t'as plein d'autres joueurs qui arrivent. Donc, non seulement toi, t'es pas adapté à ton équipe, et tu as plein de nouveaux joueurs qui arrivent qui ne sont pas adaptés à leur coéquipier. Fait que c'est juste très, très difficile de performer dans ces conditions-là. Mais ils sont toujours en vie en Ligue des Champions. Puis là, on s'est le temps de parler du tirage. Chelsea, d'ailleurs, qui va jouer contre le Real Madrid. Là, si Chelsea s'en sort, les gars, je ne comprends pas comment ils vont faire. Parce que le Real a marché sur Liverpool, là, piétiné Liverpool, on en a parlé. Donc, pour moi, je vois facilement le Real favori contre Chelsea, même si ça reste une grosse affiche, là, Chelsea-Madrid. Pour moi, c'est Madrid aisément. Je ne sais pas pour vous.
Mm-hmm, moi aussi. Écoute, puis même si par n'importe quel miracle, Chelsea passe,
c'est Madrid, tout Bayern après. Ouais.
C'est ça. C'est... Il n'y a aucune chance qu'ils finissent par l'emporter. Mais vous savez, d'un, je ne suis pas très bon dans les prédictions. Puis de deux, avec City, avec Chelsea, ils ont tendance à sortir un peu de nulle part avec les champions dont on en parlait. Donc, il ne faut jamais parier contre eux.
Ouais, en 2021, ils s'en sont sortis, on ne sait pas trop comment. Ben là, ça pourrait arriver encore. Même s'ils étaient peut-être en meilleure forme, je dirais en 2021. Là, donc, en fait, ils étaient en meilleure forme. Là. Bref, d'où?
Ouais,
je peux pas dire Chelsea. Bon.
Les
gars qui portent des chandails du Real en ce moment, faut dire. Là.
Ouais, faut le mentionner. Mais moi, je pense que ça va être serré. Je pense que ça va se rendre au temps additionnel, un peu comme l'an dernier. C'est quoi sa troisième fois en 3 ans que le Real et Chelsea s'affrontent dans la Ligue des Champions. Puis deuxième année consécutive qui s'affrontent en quart de finale aussi. Mais si on regarde le scénario de l'an passé, puis si on regarde aussi le scénario d'il y a 2 ans, comme moi, je pense pas que Chelsea va se rendre. Je pense pas que Chelsea va se rendre plus loin que les demi-finales, mais je serais pas surpris qu'ils battent le Real. Mais écoute, par précaution, je pense que je vais prendre le Real Madrid, mais vraiment à l'arraché. Moi, je pense que c'est plus serré qu'on le pense.
Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Pourquoi pas? Écoute, si c'est serré, ça va être le fun pour les spectateurs. Bref. City Bayern maintenant. Ça, on va saliver là, devant ce match-là. J'ai l'impression que ça va être du bonbon. Là. On l'espère, là, parce que des fois, on dit que c'est du bonbon, puis ça donne un Tottenham assez Milan, tu sais. Mais c'est ce qu'on va voir. Y a-tu quelqu'un qui a déjà sa décision de prise? Parce que moi, je ne sais pas qui prendre encore. Là.
Moi, j'ai ma décision de prise.
Vas-y.
Puis, écoute, je crois que je vais aller avec Manchester City parce que Man City, je trouve, comparé au Bayern, Bayern a beaucoup de difficultés en Bundesliga cette saison, qui est un peu plus challengé que lors des années. Je pense que le Bayern a certains doutes qui plane autour du Bayern de Munich par moment. Puis, écoute, si le Bayern joue le match aller comme il a joué, comme celui au Parc des Princes, je pense que Manchester City va juste arriver en mode rouleau compresseur puis juste passer à travers le Bayern de Munich. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment à Manchester que ça va se décider qui va remporter les deux équipes. Mais moi, je vais aller avec Manchester City juste parce que j'ai l'impression que City est peut-être un petit peu plus en forme que Bayern. Malgré que Bayern, ça va beaucoup mieux hein, depuis quelques temps, mais des fois, il y a des doutes qui
Alfonso Davies joue du soccer inspiré présentement.
Mm-hmm. Ah oui, il est sensationnel. Alfonso Davies, c'est exceptionnel. Malgré que j'adore Fonzi, je vais aller avec Man City.
Moi, j'aurais pu me prononcer avant le 18 avril.
Ah ok, quand même.
Ouais. Comment?
Je refuse de me prononcer avant le 18 avril.
Ok, qui est la date? C'est le match retour le 18 avril?
C'est la veille du match retour. Attends.
Okay, mais là. Je refuse de me prononcer. C'est facile de dire, moi je peux me prononcer, mais après le match aller.
Ok, non. Je refuse de me prononcer avant le 19 avril à la 89e minute. Genre. Ça va être.
Mais c'est pas du jeu, ça, une prédiction, c'est avant les matchs, Tom.
Ah, écoute. Ça va être tellement un bon match. C'est difficile à prédire, mais j'ai envie de Bayern. Seulement parce que je pense que City commence à être fatigué. Ils ont la FA Cup en fin de semaine d'ailleurs. Ils sont bien sûr dans une course au titre avec Arsenal en PL. Du côté de la Bundesliga, pour une fois, tu as le Bayern qui sont dans une course plus serrée avec Dortmund. Mais je pense qu'ils vont être, plus reposés. Je pense que seulement 4 matchs jusqu'au match aller. Ça va leur donner l'avantage, je trouve. Du coup, c'est Bayern.
Donc, tu vas avec Bayern. Pendant que vous parliez, j'ai réfléchi. Je pense que je vais y aller avec le Bayern également. City, écoutez, c'est des performances un peu pas en denti, ben pas autant en denti que Liverpool, mettons, mais en denti, il faut dire, Leipzig 1-1, puis ensuite Leipzig 7-0. C'est pas la constance, leurs performances sont pas au même niveau à chaque fois. Donc, tandis que le Bayern, je pense que commence à prendre leur rythme, commence vraiment à bien revenir. Mané de retour au jeu. Davies joue très bien. Goretzka, Kimmich, ça marche bien également milieu de terrain dernièrement. Sané, Gnabry, Coman sont là. Donc, le monde est assez en santé, à part peut-être Neuer côté Bayern. C'est plus une performance qui est toujours au même niveau, selon moi, ces derniers temps que City. Donc, j'irais du côté du Bayern, mais ça va être extrêmement intéressant de suivre ça.
Tant qu'on a des bons matchs, je veux dire.
Ouais.
Moi, ça me dérange pas.
Ouais, on veut du spectacle. Un Manchester City Bayern, on veut du spectacle. Écoute, OK.
Avant, une question pour toi. Est-ce que tu penses que Bayern va être capable de neutraliser Haaland?
Je te dirais que. Oui, je pense que oui, mais en même temps, Haaland, c'est autant un puissant finisseur rapide qu'un renard de surface qui est capable de bondir sur n'importe quel ballon. Là. Donc, écoute, je pense qu'ils ont plus d'aptitude que Leipzig pour défendre City, ça c'est sûr. Mais ça va être très compliqué quand même. Là, ça, c'est écoute. Mais oui, je pense de Ligt, je ne sais jamais comment le prononcer. Joue du bon soccer présentement, là. Mathias, mm-hmm. qu'on a beaucoup critiqué dans les dernières années, mais je pense qu'il va quand même bien présentement. Voilà. Je pense qu'ils vont être capables de le maîtriser à un certain point, ouais.
OK. Ben, écoute, faut dire qu'en Bundesliga, ça a été quand même difficile, 5 buts. En fait, non, 4 buts en 5 matchs à l'époque qu'il jouait avec Dortmund. Donc, ce ne sera pas facile. Ça va vraiment être une confrontation surveillée.
C'est vrai. Écoute, on peut pas parier contre Erling Haaland non plus. Mais Haaland aussi n'est pas constant là, ces temps-ci. Il a un 5 buts, mais des fois, il ne marque pas pendant 3 matchs. Bref, ça va être très, très, très intéressant de voir. On va de l'autre côté maintenant. AC Milan contre Naples. Moi, je l'ai dit tantôt, Naples, je pense que va être en mesure de se défaire de Milan et de l'Inter Milan ou Benfica, peu importe. Puis va aller en finale contre un Real, un City ou un Bayern. Moi, c'est le scénario que je vois dans ma tête. Je sais pas si vous pensez la même chose pour de Naples que moi. Là.
Ouais, je suis d'accord. Je pense que Naples, le chemin tout tracé vers la finale. Ouais. Puis écoute, en Serie A, c'est un rouleau compresseur. Puis en plus, Milan, ça va pas super bien senti. Donc,
les deux Milan, oui.
Oui, c'est les deux. Donc vraiment, je serait vraiment une grosse surprise de pas voir Naples en finale.
Ouais, moi, écoute, je vous suis là-dessus. J'ai l'impression que Naples, cette saison, joue avec beaucoup d'inspiration. C'est une équipe qui est fantastique à avoir joué. Tu as Victor Osimhen qui est dans une forme resplendissante, comme la...
Vichak Parashkalia, là. Wow.
Oh, c'est comme... Il y a plusieurs joueurs de Naples qui sont extraordinaires. Puis, oh, Pelay, j'ai l'impression qu'il restera pas du côté de Naples pour la prochaine saison. Fait que c'est ça qui va être pénible. Mais j'espère qu'ils vont rester là parce que ça va. En tout cas, leur valeur a vraiment augmenté de façon fulgurante cette saison. Je suis d'accord avec vous, genre, ouais. Le chemin est vraiment tracé vers une finale. Puis peut-être même qu'ils si on regarde leur forme, peut se rendre jusqu'au bout. Là. Moi, je pense qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions là, au point
où ils sont rendus. Ils peuvent gagner.
Ils vont. C'est la meilleure équipe d'Europe depuis le début de la saison.
Mais en même temps, je veux dire.
La plus dominante, en tout cas.
Contre Bayern, contre City, contre Real.
Ah non, c'est sûr que tu peux perdre.
C'est un autre niveau que la compétition qu'ont eu présentement.
C'est un autre niveau que la Serie A, c'est très vrai, mais c'est l'équipe qui va le mieux depuis le début en termes de constance.
100% vrai. Moi, je pense que c'est une équipe qui peut se rendre jusqu'au bout. Sauf s'ils affrontent Real en finale. Là, ils vont perdre. Mais s'ils affrontent d'autres équipes.
Un Naples contre Bayern ou un Naples contre City, tu mets Naples favori?
Je mets pas un Naples favori, mais je dis juste qu'ils ont plus de chances de gagner que s'ils affrontent Real Madrid, tu comprends?
Ouais,
c'est ce que je dis. Surtout que le Real en Ligue des Champions. Bon,
donc toi, tu mets Real gagnant pour encore cette année, d'où? C'est ce que j'en comprends.
C'est pas mal
ce que tu voulais dire. Intéressant. C'est très dur d'aller contre le Real présentement. Je suis d'accord avec vous, les gars. Naples peut facilement filer vers la finale et peut-être la victoire même. Ça serait fou, une victoire de Naples en Ligue des Champions. Mais il faut quand même être un mais. L'AC Milan puis l'Inter, ça fait extrêmement longtemps qu'ils n'ont pas été dans cette position-là. C'est des équipes qui ont déjà été très prestigieuses en Ligue des Champions. On se rappelle 2010-2007 et AC Milan qui a comme 6 Ligue des Champions. Donc, c'est l'occasion pour eux. Là. Ça fait des années qu'ils attendent une occasion comme ça. Ils peuvent sortir deux gros matchs du côté de l'AC Milan, par exemple, et sortir Naples ou l'Inter en demi s'ils parviennent par-dessus Benfica. Peuvent sortir le gros match aller-retour, se défaire de Naples et être en finale pour la première fois depuis 2010. Donc, c'est quelque chose qui se peut aussi, mais en ce moment, Naples a l'avantage de loin. Là, je suis d'accord avec vous. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour du tirage Ligue des Champions. On passe à l'Europa, les gars.
CF avant.
Comment?
CF avant, puis...
On finissait pas par le CF?
C'est une bonne question, hein.
Ben, finissons par le CF.
L'Europa,
Tom, Arsenal va très bien en Premier League, toujours en tête avec un 5 beau points devant City. Mais Arsenal n'est plus en liste en Ligue Europa. Perdre contre le Sporting au tir au but. Vas-y, parle-nous.
Écoute, c'est cruel les tirs au but. On le sait.
Ouais.
Pour avoir écouté les deux matchs, la défensive d'Arsenal, surtout en match aller, en fait, depuis quelques semaines, m'inquiète un peu. C'est beaucoup moins étanche que lors du début de la saison, par exemple. Mais dans le match hier, ça s'est resserré. D'ailleurs, chapeau à Pedro Gonçalves. Quel but hier! Pour ceux qui ne l'ont pas vu, a fait un lob du milieu du terrain qui a complètement déjoué Ramsdale. Chapeau à lui, écoute. Ça a fait mal au cœur, mais il faut que tu t'inclines devant le talent. Du côté d'Arsenal, là, c'est en plus que dans le match hier, surtout lors du temps supplémentaire, Arsenal a eu beaucoup de chance. Le gardien Hayden, qui a été incroyable en temps supplémentaire, je pense qu'il a effectué 4 arrêts seulement dans la période de prolongation. Chapeau à lui également. Là, du côté d'Arsenal, le focus vient de se passer sur la Premier League et sur cette course au titre face à City. Puis en passant, c'était également le premier match, la première titularisation de Gabriel Jesus depuis son retour de blessure. Il a quand même bien paru. Gros match de sa part, même s'ils n'ont pas marqué. C'est encourageant pour la suite.
On a beaucoup vanté Nketiah, mais je pense que Nketiah, ça allait peut-être un peu moins bien là, des derniers temps.
Aussi c'est blessé. Donc,
comment?
Oui, c'est aussi blessé. Donc,
tu vois. Donc, ça fait beaucoup de bien, Jesus. Mais oui, vas-y, d'où?
Ouais, ben c'est ça que je voulais rajouter. Je pense que un retour de Gabriel Jesus va faire du bien personnel pour la fin de saison en Première Ligue. Son retour arrive au bon moment. Là, comme, surtout malheureusement, avec la défaite en Europa League, ben, ils peuvent se concentrer à 100% pour la fin de saison en Première Ligue. Puis surtout que la fin de saison s'annonce quand même assez difficile avec 3 matchs à l'extérieur. Donc,
ouais, c'est un peu un blessing in disguise, cette élimination-là, parce que ça permet aux joueurs d'être plus reposés comparativement à City qui va avoir le Bayern, qui va avoir aussi la FA Cup. Donc ça pourrait jouer à leur avantage dans cette course au titre.
Sinon, les gars, Man U s'est défait de Betis, ça c'est facilement cumulatif de 5-1. Est-ce que Manchester United sont les favoris pour remporter la Ligue Europa maintenant que Arsenal n'est plus dans la course?
Ben, on oublie, mais il y a également la Juventus qui, en oui. fait, devrait s'affronter en demi-finale face ouais. à Man U.
Ouais. Après ça, il reste Roma pas mal dans l'autre partie de tableau. Là,
mais... Ouais. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que United joue contre Séville et Séville a tendance à être excellent en Europa League.
Ouais, même s'ils sont pourris en Liga cette
saison. Ils sont mauvais en Liga.
Ils sont vraiment mauvais, mais ils sont excellents en Europa à chaque année. Donc, ça pourrait venir jouer des tours.
Ouais, puis Sporting a battu Arsenal. Fait qu'il pourrait très bien battre la Juventus. Là.
Ouais, c'est ça. Donc. Écoute, ça va être quand même assez relevé le jeudi.
Ouais, puis Feyenoord a massacré le Shakhtar Donetsk, messieurs. Là. Et on a aussi Leverkusen qui va bien en Europa League. Donc, tout est possible dans cette Ligue Europa. Mais pour vous, est-ce que le favori, ma question, est-ce que pour vous, le favori, c'est Man U? Pour moi, je dirais oui.
Ouais.
Je pense qu'ils vont être en mesure de passer. Et s'ils affrontent la Juventus, je pense qu'ils vont être capables de passer la Juventus. Pour moi, Manchester United, c'est leur année. Ils sont dominants quand même en Premier League depuis que Ronaldo n'est plus là, pas mal. Là. Donc, je pense que c'est l'occasion pour eux d'aller chercher un trophée.
Ben, est-ce qu'on parle de la Conference League?
Non, on n'a pas besoin, Tom. Je pense pas que c'est intéressant. Mais hey, moi, gars, je voulais vous dire que moi, mon favori pour l'Europa League, c'est l'Union Saint-Gilloise. Ça, c'est mon équipe. Mm-hmm.
Ah oui? Nomme-moi trois joueurs de l'Union Saint-Gilloise. D'où.
Non.
Non, ben c'est ça.
Je ne peux pas.
Bonne blague quand même.
Mais c'est un beau nom pareil. C'est un beau nom.
On leur souhaite bonne chance.
Ils ont quand même battu l'Union de Berlin.
Ils ont battu Berlin. Ouais.
6-3 qui mettait le début quand même. Il faut le faire. Hey, l'Union Saint-Gilloise quand même. Ça sonne tellement grandiose.
Ouais, ben c'est un club belge qui est sorti nulle part dans le passé.
Ouais, mais pour finir, juste 10 secondes, moi je pense que je vais aller avec la Juventus comme équipe favorite pour apporter.
Oh, ok. Mais ils vont bien, écoute, ils sont tellement bons en Serie A à cause de leur perte de points qu'on se rappelle de en raison de l'administration et tout. Mais je pense qu'ils seraient deux ou troisième de Serie A si c'était pas de ça. Donc ils vont quand même bien en Serie A, c'est juste qu'on n'a pas l'impression qu'ils vont bien en raison de leur place au classement.
Combien de points dans 5?
15. 15. 15, puis là, ils sont quasiment dans les places européennes malgré ça.
Ils sont septième.
C'est ça, septième, tu sais.
Puis ça les passerait à. Ils seraient deuxième si c'était pas de.
Exact.
Deuxième. De l'intuition. Donc, écoute. Bon. Chapeau à la Juventus.
Ouais. C'était un très bon choix pour ce qui est de les favorites également. OK. On passe au CF maintenant pour conclure cet épisode-là. CF Montréal. Comment?
Ça va
très mal. C'est rendu quoi? C'est rendu trois défaites, là?
Trois défaites, aucun but marqué.
Sont quand même juste avant-dernier dans l'Est. Là. Charlotte, je crois, a marqué un but, mais n'a toujours pas gagné eux non plus, puis ont un moins bon différentiel. Mais écoute, le dernier match du CF, c'était juste qu'on n'était pas capable de rien construire offensivement. Là. C'était pénible à regarder. Là, on est à domicile demain. Nous serons au stade. Est-ce que le CF va être capable de... contre l'Union de Philadelphie, quand même. Là. C'était une grosse équipe. Est-ce que le CF va être capable de au moins de marquer un but? Au moins.
On l'espère. Écoute, ce serait le fun de voir ça. Ouais. Mais écoute, pour revenir rapidement au CF, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est juste que Il y a eu trop de changements rapidement, trop de changements drastiques du côté de CF Montréal. Ils n'ont pas eu le temps. J'ai l'impression que le mercato d'hiver a été trop court pour le CF. pour vraiment essayer d'acheter des joueurs, pour vraiment pas laisser paraître qu'il y a eu des trop trop importants. C'est ça pour vraiment essayer de régler certains trous qui sont créés en raison de joueurs importants qui sont partis. T'sais, on peut passer là, par contre, c'est le milieu de terrain. Là, genre, évidemment, le départ de Mihailović fait mal. Puis en plus, quand tu as Mihailović qui est blessé,
écoute, Sean Rhea joue bien quand même. Là,
ouais, mais... quand même, mais c'est une recrue. Là. Fait que,
tu peux pas compter là-dessus. Il fallait faire au moins un achat en milieu de terrain, là, M. Renard. Là, ça n'a pas été fait. Ça coule le CF en ce moment. Là.
Mm-hmm. C'est ça. Puis tu as Samuel Piet qui joue quand même bien en début de saison.
T'es blessé le dernier match?
Ouais, c'est ça. Le dernier match, je sais, mais les deux premiers matchs, ça allait bien. Mais là, en plus que tu as Samuel Piet qui est blessé, là, écoute, il y a des changements importants à avoir du côté du CF Montréal. Puis en plus, on vantait le CF Montréal il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, parce qu'on s'est dit, il y a quand même plusieurs joueurs de l'académie qui commencent à faire leur place dans l'11 titulaire. Tu parlais de Chanuia, mais il y a également Nathan Saliba qui est titulaire. Maxime Chouanière qui l'est depuis...
Maxime. Très mauvais match, Mathieu Choignard, contre Nashville.
Ouais, c'était assez difficile de sa part. Puis Jonathan Sirois qui joue vraiment bien, mais est tout seul, malheureusement. Il peut pas faire des miracles, le pauvre. C'est un excellent gardien de but, mais à un moment donné, si tes coéquipiers ne peuvent pas t'aider, tu peux pas tout arrêter non plus.
Par contre, c'est très encourageant pour le CF, du côté. Dans le final, puisque Partemi s'est blessé pour cette semaine. Donc, au moins, si on peut avoir Sirois qui peut limiter les dégâts, tant mieux.
Ouais, mais le problème reste zéro but marqué. Zéro. Mmh.
Ouais.
Tu peux pas gagner de match en ne marquant pas de but. C'est pas compliqué. C'est ça qui arrive du côté de CF Montréal. Puis, écoute, je ne sais pas si c'est vraiment le milieu de terrain 100%, mais les attaquants non plus, ils sont pas...
Les attaquants non plus. Écoute, Romel Kyoto n'est pas très visible depuis le début de la saison. Mason Toy est rentré juste le dernier mois. On n'entend même pas parler de lui. Je pense que ça ne va pas bien de son causé. Soudouzi Ibrahim, j'avais quand même aimé un peu ce qu'il avait fait, que c'était contre Miami ou contre Austin. Je ne sais plus, contre Miami, je pense. Il y avait eu peut-être deux bonnes chances, mais après ça, dans les autres matchs, on ne l'a pas vu. Chinonzo Afor, il est bon qu'au niveau aérien, mais à part de ça, on ne le voit pas. Je vois mal comment on va être capable de marquer souvent là, cette année. Là. Ouais. Honnêtement, quand Camara est parti, on ne l'a pas remplacé. On n'a pas fait de d'achat pour en attaque. On n'a pas fait d'achat pour le milieu offensif, le milieu relance créatif. La seule position que ça va bien présentement en tant qu'à moi, c'est Victor Moanyama, qui est toujours bon, là, honnêtement, là, qui est solide en milieu. À part de ça, Cameron Miller, mauvais match contre Nashville aussi. En fait, Moanyama et Sirois, c'est les deux que ça va bien. Là. Miller, pas bon match contre Nashville. Camacho, c'est Camacho. Et, honnêtement, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas extrêmement bon non plus. Waterman, un bon match contre Nashville. Il a fait des bons gestes défensifs. Herrera, ça va bien niveau des centres quand même. J'ai des centres intéressants, mais défensivement, c'est vraiment pas Lester Johnston. Puis Lapalainen aussi.
Lassie.
Je sais pas trop quoi dire sur Lassie. N'est pas vraiment mauvais, mais n'est pas fulgurant non plus. Fait qu'écoute... Ça s'enligne très mal pour le CF Montréal.
Ouais, c'est cool. Mais en même temps, comme on l'a vu, c'est quand même trois matchs à l'extérieur. Puis c'est pas évident pour n'importe quelle équipe MLS de commencer à l'extérieur. Là. Puis malheureusement, pour le CF, c'est la réalité de ce club-là chaque année. Là, c'est qu'ils peuvent pas jouer à Montréal là, au mois de février. Là. C'est quasi impossible. Donc là, ils vont jouer. Là, ils vont jouer demain du côté du Stade Olympique. On va être là. Mais même le stade olympique, c'est pas l'idéal non plus. Là. C'est sûr que la meilleure option, c'est de jouer au stade Saputo, mais tu ne pourras pas jouer au stade Saputo avant quoi? Mai? Mai, juin?
Mai, d'habitude.
D'habitude, ouais, c'est ça. Ouais. Il faudra prendre notre mal à la patience, mais
Je pense que le CF a seulement, je pense, 2 ou 3 matchs à domicile au Stade Olympique. Mm-hmm. Donc, ça pourrait être faisable. En fait, ouais, le stade ouvre le 15 avril, en fait. Le stade Saputo. Okay. Et jusqu'à là, le CF a un match de demain à domicile.
C'est un match contre DC United aussi, je pense.
Ah ouais, mais DC United, c'est la match d'ouverture.
Ok, donc c'est juste un match au Stade Olympique. Okay.
Ouais, mais quand même, tes 5 de tes 6 premiers matchs à l'étranger,
ouais.
C'est sûr que c'est pas super facile. En tout cas, la MLS, sur cette mm-hmm. saison, c'est une équipe qui favorise les équipes à domicile.
L'an passé, le CF a débuté avec 3 défaites. Et c'est encore ça pour le moment, puis on sait comment ça a fini l'an passé.
Ouais, par contre.
J'ai vraiment de la misère à voir le même scénario
sur produire. C'est ça, tu sais. Je veux dire, t'enlèves Mihalovic, t'enlèves Conny, t'enlèves Joaquin Torres, t'enlèves Alistair Johnson. C'est pas la même équipe.
Non, vraiment pas. Puis c'est surtout qu'à part Herrera, on a remplacé personne. Puis Herrera, c'est même pas un remplacement, c'est clairement. Johnson était au-dessus. Là. Mm-hmm. Fait que. On a remplacé personne. Conny, on n'a pas de remplaçant. On a Sean Rhea, mettons, là, mais c'est une recrue. C'est ça. Fait que, écoute, moi, je vois que c'est très problématique de mon côté. Fait que, prédiction pour le match de demain, messieurs? C'est la dernière question du podcast.
Oh! Je vais aller avec un
1-1. 1-1, donc le CF marque et ne perd pas demain, selon toi.
Exactement.
Écoute, moi, je suis positif. Peut-être que certains diront... je suis naïf de croire ça, mais je m'attends à une victoire. Une victoire.
OK.
Ouais, écoute, ça va être grâce à nous. Ouais. Mais je m'attends à une victoire d'un 0.
Ah, 1-0? Oh, ouais. OK. Donc, des très grands arrêts de Serrois dans ce 1-0-là. Là.
Ouais.
OK. Moi, les gars, je vais être pessimiste. Je vais y aller avec une défaite 3-1. Donc, au moins un but. Mais ouais, l'Union Philadelphie va gagner 3-1 tant qu'à moi. Parce que c'est l'Union Philadelphie, c'est une des meilleures équipes MLS depuis des années. Et que le CF, j'ai de la misère à avoir du positif jusqu'à maintenant, mais je suis très ouvert à être surpris et à être heureux d'une victoire. Je l'espère grandement. Mais voilà, ma prédiction, c'est 3-1 Philadelphie. Les gars, autre chose à rajouter, une petite actualité que vous voulez. Cristiano Ronaldo fait la liste du Portugal. Ça, mm-hmm. c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait balancer. Mm-hmm. Mais ouais. Sinon, y a-t-il autre chose que vous voulez dire?
Zlatan.
Vas-y. PL?
Zlatan.
Zlatan? Ah oui, Zlatan. Merci de parler de Zlatan, mon gars. Vas-y, parle-moi de Zlatan.
En fait, Zlatan, qui a 43 ans, est rappelé par l'équipe nationale.
Oh, 41.
41. Respectons
41. 41.
Mais s'il joue l'Euro, il va avoir 42 ans à l'Euro 2024. 24, tu touches ça, ça fait quoi? 42, boum!
Wow, OK, c'est destiné, tout ça! Okay,
je viens de penser à ça, mais en tout
cas... c'est incroyable, la Suède qui joue deux matchs lors du prochain break international.
Ouais.
En fait, la première pause internationale depuis la Coupe du Monde,
ouais.
qui va jouer...
C'est des matchs préparatoires pour l'Euro.
Oui, c'est contre la Belgique et l'Azerbaïdjan. Okay. Un match qui est
t'inquiète.
dans la poche actuelle.
Les contre la Belgique.
Écoute, ça reste à voir. Et sinon, écoute, il n'y a pas d'autre chose à dire. Là. Pensez-vous que Ronaldo va être titulaire?
Avec Roberto Martinez, il faut dire, là, c'est un nouveau sélectionneur. J'ai envie de dire oui parce que en pointe t'as lui ou t'as Gonçalo Ramos, fait que ça va être une décision à prendre côté de Pedro Martinez, Roberto Martinez, mais ouais, moi j'ai du goût de dire oui là.
Ouais, je sais pas franchement, mais moi je sais pas, si l'impression que c'est parce que tu peux pas rappeler Cristiano Ronaldo et ne pas le faire jouer,
c'est ça.
Donc, je pense que
finalement,
je pense que
je vais aller.
Je pense que
CR7 va être là. Ouais, puis en plus, il joue contre Liechtenstein et Luxembourg. Donc, c'est pas c'est loin d'être puissant.
C'est son occasion pour mettre un doublé ou un triplé. Donc, ouais. Puis, Est-ce que, tu sais, on pensait peut-être que c'était la fin de la carrière internationale de Ronaldo quand il est sorti en pleurs contre le Maroc. Est-ce que Ronaldo va jouer l'Euro 2024, messieurs?
J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Écoute, peut-être qu'il va réussir à faire partie du...
il sera pas titulaire.
Des joueurs sélectionnés juste parce que c'est Cristiano Ronaldo. Rendu au point qu'il est dans sa carrière, c'est vraiment juste par nom qu'il se fait sélectionner au Portugal, puis vraiment juste parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire de ce pays-là. Là. Donc, tu peux passer à côté de Cristiano Ronaldo avec le Portugal, mais comme, tu peux pas penser gagner des rencontres en ayant Cristiano Ronaldo dans ton 11 partant. Là, comme, c'est difficile, là, surtout en son âge. Ouais. Là,
peut-être pas 11 partant rendu à l'Euro 2024, mais il pourrait être dans le groupe quand même.
Ouais, il pourrait être dans le groupe, mais même là, ça serait... Moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais j'y crois pas.
Il serait là, mais pas comme titulaire.
Ouais,
comme tu te dis, je pense que c'est vraiment par nom, ça fait sélectionner. Il faut dire, parce qu'il joue pas dans le meilleur championnat. C'est l'Arabie Saoudite, donc.
Puis il y a de la misère en plus en Arabie Saoudite.
Ouais, ça, c'est pas
une idée. La misère, il a quand même mis un triplé puis un quadruplé. Là.
Ouais, mais ça.
Mais il marque pas tous les matchs, c'est vrai.
Ça a pris du temps là, avant qu'il marque. Là.
Ouais, c'est pas. Cristiano Ronaldo, il ne marche pas sur l'Arabie Saoudite. Là. Genre loin, là comme
non,
cette semaine,
non,
cette semaine il y a un match où
son équipe... Il y a quand même des statistiques intéressantes. Là.
Ouais, c'est des statistiques intéressantes, mais même El Nassr, je pense que, je sais pas si c'était cette semaine où ils avaient perdu une rencontre, ou que Cristiano Ronaldo s'était fâché, là.
Ouais.
Il avait quitté la rencontre.
Ouais, ben, sous les champs de Messi, là. Ouais, ouais.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un match de coupe de El Nassr, je pense, qui perdait 1-0. Et l'arbitre a comme rajouté je pense que c'était 10 minutes de temps additionnel.
Mm-hmm.
Je pense que c'est juste pour que Ronaldo score. Ronaldo a scoré. Écoute, c'est un peu shady, ce championnat-là, on se cachera pas.
C'est un peu quoi?
Un peu suspect.
Ouais.
Mais il est quand même divertissant, je trouve.
FC Barcelone vibe, peut-être.
Ouais.
De Barcelone qui est accusé, ben en fait pas accusé, qui est coupable là, d'avoir payé le vice-président de l'arbitrage pendant de 2001 à 2018, quelque chose quand même. Fait que, ouais, c'est ça. On finit sur la corruption. Fait que, yes, sir, n'acceptez pas la corruption à la maison. Et écoute, Dou, Tom, ça fait un plaisir encore une fois d'un jason ballon rond. C'est toujours très plaisir de parler de soccer
c'est
avec vous.
Ben oui,
c'est fort.
Très fun. Et voilà, on a surveillé ben, le CF Montréal demain. Tous au stade si vous voulez acheter des billets dernière minute. Sinon, eh bien, là, les ligues qui se poursuivent, les courses en PL présentement, course en Bundesliga également. La Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue Conférence qu'on n'a pas parlé aussi. Ça continue tous dans ce beau monde du ballon rond. Et là-dessus, les gars, je vous souhaite une excellente soirée puis on se voit très bientôt.
Ouais.
Salut!